Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du CQFR. Chai, seulement deux matchs au programme cette nuit. Une victoire assez choquante, celle des Hawks contre les Celtics. C'est la deuxième de suite, la deuxième fois qu'Atlanta bat Boston, la deuxième fois en quatre jours. Victoire des Hawks, la quatrième de suite donc. Et entre-temps, ils avaient battu Portland, mais donc lundi, ils battent Boston en remontant 30 points d'écart. Là, hier soir, les Celtics au complet, avec trois jours de repos, où tu te dis, bon, ils vont peut-être vouloir rétablir la balance, prendre leur revanche. Et non, les Hawks ont encore gagné. Après prolongation, encore un match serré. Dejounte Murray, incroyable. 44 points en 44 tirs. Mais il a mis ce qu'il fallait et il a notamment mis celui pour la gagne.
Incroyable quand même. L'adjectif, ouais. Il est bon parce que c'est la soirée qu'il a passée, le gars, il bat son record en carrière. 44, c'est son meilleur score. Enfin, c'est ça, 44. Je sais plus s'il a égalé ou battu.
C'est son record en carrière.
Record en carrière. Il marque les 11 points des Hawks en prolongation. Il inscrit le game winner dont tu parlais à la dernière seconde devant Jrue Holiday, s'il vous plaît, quand même, qui essaie de défendre sur lui. Et face à la meilleure équipe de la Ligue cette saison. Donc, alors oui, il a pris 44 tirs pour atteindre ce total. Depuis 24 ans, il n'y a que Kobe Bryant et Russell Westbrook qui ont pris autant de tirs. Et il y a 7 matchs, 7, 6 fois Kobe, une fois Westbrook.
Et si tu vas un peu plus loin, depuis le shot clock, depuis qu'il y a les 3 points, ouais. Il n'y a pas beaucoup de monde non plus, parce qu'il n'y a que Michael Jordan et Chris Webber aussi qui en ont pris plus que 44. Donc tu vois, on va dire que sur les 40 dernières années, il y a 4 joueurs qui ont pris plus que de tirs que Dejounte Murray. Mais bon,
c'est pour ça que l'adjectif incroyable paraissait assez adapté, tu vois. Donc oui, il a pris beaucoup de tirs, mais il s'est passé des choses quand même.
Et au final, ça a payé. Et les Hawks, qui, mine de rien, à se demander est-ce que c'est la bête noire des Celtics. Ils avaient très mal commencé leur série de playoffs contre les Celtics l'an dernier pour ensuite plutôt bien accrocher Boston. Il y avait 3-0, après ils perdent en 6 manches, si je ne dis pas de bêtises. Donc ils prennent 2 matchs de suite, je crois, hein, de mémoire. Là, ils jouent sans Jalen Johnson, qui était peut-être leur joueur le plus important cette saison. Ils jouent sans Onyeka Okongwu, qui est quand même un jeune prometteur. Ils jouent sans Trae Young. Il gagne deux fois de suite contre les Celtics, quoi. C'est presque. Après, bon, on est en fin de saison. On sait que Boston a déjà validé la première place, a déjà validé sa place en playoff, évidemment. Mais quand même.
Trae Young qui était pas là, mais qui était là un peu. Il a trouvé le moyen de prendre une faute technique juste parce qu'il est entré sur le terrain. Ce petit moment de flou où t'as le speaker qui dit technical foul for Trae Young et là les gens, oh, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, t'as raison, sans Trae Young, il y a sans d'autres joueurs aussi. En fait, la leçon, c'est peut-être que là, avec les deux victoires en peu de temps, c'est que s'il y a un Boston-Atlanta au premier tour, ce qui est possible, parce qu'Atlanta va passer par le play-in et peut, pourquoi pas, espérer faire une campagne un peu, alors peut-être pas à la Miami Heat non plus, mais une campagne déjà se qualifier en sortant du play-in, bah, les Celtics n'ont a priori pas le loisir de se reposer et de la jouer trop cool contre les Hawks, parce que les Hawks ont trouvé quelque chose pour les embêter sur de la saison régulière, à un moment où Boston a déjà plus que largement verrouillé la première place. Ils ont encore 11 matchs, 11 victoires d'avance. Hein, mais c'est une équipe qui va se battre, qui en plus récupérera, j'imagine, Trae Young à temps pour les playoffs. Donc c'est, oui, voilà, faut être prudent quand même de la part des Celtics. Après, Joe Mazzulla, il a quand même dit que ces matchs-là lui servaient à tenter des choses. Alors, c'était dans son langage que moi, je ne comprends pas. Hein, c'est-à-dire, c'était très tactique. Des trucs très, très spécifiques sur des défenses des types de défense qui préfèrent tester maintenant, quitte à ce que ça pose souci, que ce n'est pas les résultats qu'il espère maintenant, mais que ça peut servir en play-off. Il y a des coachs qui sont comme ça, d'ailleurs, qui aiment bien tenter des choses à ce moment-là pour pas que leurs joueurs les découvrent en play-off. Et là je pense que ça a été aussi son cas. Mais Boston, deuxième défaite de suite, ce n'est pas arrivé si souvent que ça cette saison.
Ouais, après, les Celtics n'ont effectivement aucune pression, absolument rien à faire. Pour Atlanta, Dejounte Murray, ça montre encore une fois qu'ils ont bien fait de pas le transférer. Je pense que ça n'avait aucun intérêt. Les rumeurs autour de la deadline me semblaient un peu exagérées, mises en lumière, parce qu'il fallait quand même vendre un joueur un peu fort et si possible vendre aux Lakers pour que ça fasse du clic. Mais au final, ça n'avait pas de sens et ils ont bien fait. T'as Trae Young qui se blesse, là t'as quand même un autre meneur autour duquel tu peux te reposer, sur lequel tu peux te reposer, un mec qui a un, Ouais, un sacré leadership, mine de rien.
Ouais, il a du caractère, le garçon. Hein.
Ouais, du caractère. Plus caractère que leadership. Bon, il a aussi une forme de leadership. Et du coup, voilà, c'est un gars dont cette équipe des Hawks, franchement, c'est difficile de comprendre ce qui s'y passe. C'est difficile de comprendre ce qui peut marcher. On attendait bien mieux de cette équipe.
Ouais.
Elle monte sur certains matchs, bah, comme celui-là, comme le précédent, qu'elle est capable de belles choses, sachant que le match précédent, ils sont quand même menés de 30 points à un moment. Hein. Donc, c'est très compliqué de comprendre.
C'est une de mes déceptions.
Qui a fini avec un bilan négatif, pardon. Mais...
Ouais, mais c'est une de mes déceptions de la saison, parce que quand on avait fait un peu nos prédictions, je les voyais top 5, je pense. Enfin, ça me paraissait pas déconnant avec le talent qu'il y avait dans l'effectif avec Quinn Snyder. J'ai peut-être vu trop beau Quinn Snyder, je sais pas, c'est peut-être ça. Après, s'ils finissent bien la saison, qu'ils arrivent à sortir du play-in, ce sera déjà bien. Ça n'empêchera pas qu'on se posera des questions à l'intersaison, notamment sur l'association Dijon-Té Murray-Trae Young. On en discutait dans notre discussion de rédac. Il y en a qui sont partisans de trader Trae Young et de garder plutôt Dijon-Té Murray. Moi, je sais pas encore. J'ai du mal à me positionner là-dessus, mais oui, c'est une des équipes les plus intrigantes, mystérieuses, pas forcément dans le bon sens du terme, parce qu'il y a des joueurs très talentueux dont on attend plus, mais il n'y a pas une alchimie folle entre les joueurs eux-mêmes. Voilà, on verra ce que ça donnera. Ça reste quand même une équipe dangereuse, hein, comme toutes celles qui iront au play-in quasiment, hein, toutes celles qui seront au play-in. Mais ouais, petite déception quand même pour Atlanta.
Allez, on peut passer à l'autre match de la nuit. C'était la victoire des Pelicans contre les Bucks, 107 à 100. Un match marqué par les 28 points de Zion Williamson, 25 points CJ McCollum, 35 points, 14 rebonds pour Giannis Antetokounmpo, et Zion qui a été décisif, on peut le dire, hein, sur la fin. Alors, les Pelicans ont compté jusqu'à 18 points d'avance. Les Bucks sont revenus à 5 points. Et là, Zion a commencé à reprendre les choses en main dans le quatrième quart-temps, à provoquer la défense adverse. Et il a été adroit sur la ligne. Mais 5 sur 6 dans les 3 dernières minutes sur la ligne des lancers.
Voilà, le plus important, c'est que on l'avait dit lors du match précédent, Zion avait fait un bon match, mais il avait totalement disparu contre Casey dans le Money Time. Et ça avait coûté forcément aux Pelicans, vu que c'est quand même le joueur majeur, que Brandon Ingram n'est pas là. Là, il ne s'est pas du tout planqué. Il a recherché, il a attaqué le cercle, il a cherché les fautes, il les a obtenues. Il a, je crois, 16 lancés en tout dans le match. Et donc, et tu le disais, 6 dans les... c'est les 3 dernières minutes. C'est ça que tu disais, ouais. Il a vraiment été il a été agressif et il s'est pas planqué. C'est comme ça qu'on veut voir Zion, de toute façon. Quand les matchs y redeviennent serrés contre des bonnes équipes en face, c'est ce qu'on veut voir. Et là, il n'était pas tout seul, hein, évidemment. McCollum, 25 points. Valenciunas, 17. Trey Murphy, 15. Donc, il est pas tout seul. Mais moi, j'ai envie de le voir développer ce côté patron dans les derniers instants. J'ai l'impression que Zion fait beaucoup de son chantier dans le début de match, en première mi-temps, et que souvent, petit à petit, ça baisse un peu. Alors, les Pelicans n'ont pas toujours besoin qu'ils soient présents et visibles dans les dernières minutes. Mais là, quand c'est le cas, dans un match serré, et pour se projeter pour les playoffs où tu as besoin de tes meilleurs joueurs dans les derniers instants, ça me plaît assez. Ça, c'est aussi une forme de leadership. Ce sera, je pense, jamais un leader très, très vocal qui va replacer tout le monde. C'est un garçon plutôt réservé, parfois qu'on dit même introverti. Là, j'aime bien le voir comme ça, et ça permet aussi aux Pelicans de continuer de mettre la pression sur les Clippers qui avaient perdu la veille. Il y a le même nombre de victoires, mais une défaite en moins pour les Clippers dans cette course à quatrième place à l'Ouest.
Ouais, les Pelicans, c'est peut-être une des rares équipes qui ont vraiment les atouts physiques pour gêner les Bucks, quoi. Et ça s'est un peu senti. Alors, bon, pas pour Giannis, hein. Giannis, lui, domine physiquement quoi qu'il arrive. Mais pour les autres, on peut penser à Middleton, par exemple, qui est limité à 3 sur 12. Pour les autres, tu sens un peu l'impact physique que peuvent avoir les Pelicans, les Zion, Herb Jones, qui fait 4 interceptions, 3 contres.
Ouais, Trey
Murphy est long, Valenciunas est costaud, il est grand aussi. Il y a de la taille, et surtout, il y a du gabarit dans cette équipe. Et ça a gêné les Bucks, je pense.
Et Herb Jones, il y a toujours, dans chaque match, il y a au moins une action où je me dis comment il a fait pour défendre ça, comment il a fait pour cette interception. C'est des matchs précédents où... Il se retrouve, je ne sais plus contre qui c'était, contre quel adversaire, mais je revois la scène où il se retrouve complètement dos à l'action et le mec, il commence à enclencher son shoot et il se retourne d'un coup et il bloque le tir comme ça. C'est le genre de séquence que Kawhi a pu faire à une époque, enfin que des mecs comme ça. Il y a toujours une ou deux séquences par match défensives, surtout avec Herb Jones, où je me dis, oh, le gars, il est vraiment, vraiment très fort.
Ouais, c'est un joueur très précieux. C'est un excellent joueur de complément, en fait.
Ouais.
Et cette équipe des Pelicans en a plusieurs, quoi. Ça va être une de façon. Hier, j'essayais de réfléchir un peu, tu sais, aux affrontements qui pouvaient y avoir qui va y avoir lieu en playoff. Et ça va être très, très, très dur. Je ne sais pas si on se fera un jeu des pronostics ou quelque chose comme ça, mais je trouve que c'est très, très dur. Tu vois, une série Clippers-Pelicans, elle est vachement difficile à pronostiquer. Tu vois. La tendance actuelle, tu peux te dire, ah, bah, les Clippers vont perdre, mais les Clippers sont plein d'arguments aussi, en fait. Et pour chaque série, si tu as un Minnesota-Dallas ou un Minnesota-Phoenix, un Thunder-Phoenix, un Thunder-Dallas, bon, peut-être les Nuggets, c'est un peu plus simple, effectivement. D'ailleurs, je ne sais plus qui a dit, un insider US qui a dit les Lakers. Je crois que c'est Nick Wright. Nick Wrong. Je crois que c'est lui qui a dit les Lakers, il faut qu'ils aient envie de jouer les Nuggets au premier tour. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte?
Mais après, Nick Wright, il a envie de partir avec LeBron James en vacances. Il a envie d'être invité depuis 10 ans. Il n'y arrive toujours pas, donc il essaye encore un peu, mais il n'y arrivera pas, je crois.
Dire que les séries, enfin la plupart des séries, c'est très difficile d'imaginer. Même certaines séries à l'Est, tu vois. Cleveland-Orlando. Bon, alors New York-Indiana. Bon, mais si c'est New York-Miami, par exemple, tu vois, c'est très... Enfin, il y a vraiment des séries que je trouve très indécises avec très bonnes équipes de basket.
On trouvera le moyen de se mouiller, vous inquiétez pas. Hein. On va évidemment faire des takes. J'annoncerai un 4-0 qui se transformera en défaite de l'équipe que j'aurai annoncé vainqueur. Et aucun souci, vous inquiétez pas pour ça. On vous dira pas, oh bon, on sait pas, on verra qui va gagner. On prendra quand même des risques, évidemment.
Est-ce que tu veux faire un petit point NCAA? Il y avait quelques matchs chez les gars. Je sais pas si tu as fait gaffe.
Cette nuit, j'ai pas suivi. Donc là, je suis pris de court.
Ok.
Je comptais me faire tranquillement. Ouais. Et je sais que les filles, c'est la nuit prochaine.
Arizona est sorti.
UConn est toujours
Carolina.
Là.
Et North Carolina est sorti aussi. Tête de numéro 1, North Carolina est sorti. Et UConn, effectivement, le champion en titre qui se qualifie.
C'est ça. J'ai vu les résultats, mais j'ai pas vu les matchs encore. Donc je vais pas me... Je vais pas faire comme si je les avais vus, mais on en reparlera de toute façon. On fera un gros point, je pense, lundi. Il y aura eu les gars, les filles, on saura vraiment quelles seront les affiches. Je vais regarder un peu ça. Vu que j'ai mis UConn champion pour le back-to-back, tout va bien de mon côté. Je me suis. Mon bracket est en vie, comme on dit.
Mais donc, mes Wildcats sont fait sortir.
Ouais.
Yes, yeah. Bah écoute.
Ouais. On peut peut-être rapidement dire un petit mot de l'espèce d'imbroglio qu'il y a à Minnesota, parce que je trouve que c'est pas anodin.
Oui, t'as raison.
Très rapidement, sur le fait que donc, ça fait depuis 2021 que Alex Rodriguez, que les fans de MLB connaissent comme une ancienne superstar qui s'était associée à Mark Lore pour racheter les Wolves, en tout cas progressivement pour devenir actionnaire majoritaire des Minnesota Timberwolves, dont le propriétaire Glenn Taylor a 82 ans, il voulait se retirer petit à petit. Et donc, il y avait un deal pour payer en plusieurs fois pour que l'actionnariat grandisse en termes de pourcentage. Et là, il y a eu un gros couac hier. Le proprio Glenn Taylor a annoncé que la franchise n'était plus à vendre parce que le tandem Rodriguez-Lore n'avait pas respecté les deadlines pour les paiements.
En fait, ils ont été lâchés quelques jours avant. Ouais. Avant ça, ils ont été lâchés par un groupe d'investisseurs qui a décidé de ne pas mettre l'argent.
Mais eux continuent de dire, et d'ailleurs, c'est ce que Woj rapporte dans son article, eux, apparemment, ont quand même réussi à mobiliser la somme nécessaire pour continuer les paiements. Mais dans leur argumentaire, c'est Glenn Taylor s'est aperçu que l'équipe commençait à gagner des matchs et puis il a le buyer's remorse, le remords du vendeur. Il se dit qu'il a vendu pour trop peu cher. Je crois que c'était un milliard cinq. Et là, il y a plein d'arguments. Les Wolves redeviennent sexy. Il y a Anthony Edwards, il y a une équipe qui va jouer les playoffs. Les franchises NBA, globalement, on voit leur valeur augmenter. Donc, ça a pu doubler, voire plus, depuis le moment de la vente. Et d'après Rodriguez et Taylor, il y a embrouille et Taylor veut juste gagner plus d'argent sur le dossier. Donc, je ne sais pas si ça va peut-être aller devant les tribunaux, tout ça, parce que la relation a l'air quand même de s'être bien dégradée. Et en tout cas, la priorité qu'ils avaient par rapport aux autres pour racheter a été éradiquée. Enfin, ce n'est plus les prioritaires. Et donc, si quelqu'un arrive demain et met un chèque supérieur, Taylor vendra, je pense, avec grand plaisir, parce qu'il a quand même 82 ans. Et que s'il peut faire une dernière grosse vente avant de partir en retraite, je pense qu'il le fera sans problème. Mais c'est pas anodin parce que c'est avec Lore et Rodriguez que Tim Connelly, le GM actuel, est arrivé. Donc c'est un peu leur gars. Est-ce que si quelqu'un d'autre arrive, est-ce que ça peut remettre plein de choses en question? Ça peut remettre la question du déménagement aussi.
Bien sûr.
Parce qu'ils avaient donné leur accord à Glenn Taylor pour ne pas faire déménager les deux franchises, parce qu'il y a aussi les Lynx en WNBA. Il avait promis de ne pas faire déménager la franchise de Minneapolis. Donc ça peut changer beaucoup de choses, en tout cas pour les fans des Timberwolves, même s'ils ne sont pas ultra nombreux en France, c'est quand même intéressant de leur préciser ça.
Non, mais c'est important, effectivement, parce que souvent, les franchises, on dit que ça part de tout en haut. Souvent, ça part du propriétaire. Mine de rien, même si les Warriors, tu vois, ils ont été capables d'avoir cette dynastie, qu'on aime ou qu'on n'aime pas Joe Lacob, il a un impact. Le mec a été prêt à dépenser, il a été prêt à suivre certaines choses. Pareil, du côté des Spurs, il y a eu des moments, tu vois. Alors maintenant, c'est un peu délicat, mais du côté de San Antonio. Mais si tu regardes d'ailleurs les franchises où ça se passe mal pendant longtemps, faire un parallèle avec les proprios.
Il y a des joueurs qui ne veulent pas venir dans certaines franchises parce qu'il y a tel ou tel proprio. L'Enix, bon, voilà.
L'Enix avec James Dolan pendant longtemps. Bon, là, je pense que tout ce qui se passe autour et le fait que lui, on l'entend un peu moins, ça va mieux. Mais même les Timberwolves, justement, Taylor, ça a l'air d'être quand même un sacré animal. Les Timberwolves ont été très mauvais pendant longtemps et je pense que d'une certaine manière, la venue de Rodriguez et Mark Lore, ça a créé une atmosphère un peu plus saine à Minnesota qui explique aussi pourquoi aujourd'hui cette équipe elle fonctionne bien. Alors c'est pas parce que là la vente capote que d'un coup leur saison va partir en fumée, mais ça c'est quelque chose qui aura un impact et une incidence sur la suite.
Ils ont quand même choisi un des meilleurs GM du paysage NBA, enfin Tim Conley,
c'est l'ancien GM de Denver Nuggets, hein.
Voilà. Donc c'est pas, il a pas tout fait, il s'est fait incendier quand il a fait le trade pour Rudy Gobert, mais globalement autour les décisions elles ont plutôt payé jusque-là. Enfin, ça se passe. Quand historiquement on a connu les Wolves, ça a été une des franchises de sport US, pas juste de basket, avec le pire pourcentage de victoires et de qualifications pour les playoffs de l'histoire, quand même. Donc, et là, ils sont sur les bases de leur meilleure saison all-time, sans être indiscutablement premier de la ligue. Ouais, donc c'est pas une franchise qui a un historique de performance très important. Donc là, tout de suite, ça se voit et la valeur de la franchise a logiquement augmenté.
Et je pense que l'autre, il veut gratter un billet de plus. Mais bon, après,
voilà.
Qui sait, on verra comment jusqu'où ça mène. On va s'arrêter là. Pour une fois, on va faire un peu plus court. De toute façon, on se retrouvera demain pour le 6e CQFR de la semaine. Justement, un CQFR plus long, celui où on répond à toutes vos questions. Mm-hmm. Donc, restez branchés sur la chaîne et nous, on vous dit bonne journée. Ciao, ciao.
Ciao.